Et nous revoici pour cette deuxième partie d'émission. Y a-t-il un pirate dans la cale ? Et oui, il y en avait deux, et deux beaux qui nous ont quittés à l'instant. Mais nous accueillons deux autres associations. Et pour cela, à mes côtés, le soleil colombien de la radio. Vous pouvez d'ailleurs entendre sa voix ensoleillée sur 48 FM dans l'émission Salio El Sol. Bonjour Sarah.
Bonjour, bonjour. Je suis là.
Et pour cette deuxième partie, tu seras accompagné de Raphaël. Bonjour Raphaël.
Coucou, re-coucou plutôt, puisque j'étais là tantôt.
Tu as fait d'ailleurs la première antenne en direct pour ces 20 ans, pour les 20 ans de la radio. Bienvenue.
Bah merci.
Et donc vous accueillez ici le CADTM, le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, ainsi que ABP, l'association belgo-palestinienne.
Oui, et pour ça, donc, on a Manu des CADTM.
C'est ça, bonjour tout le monde.
Et Manon des ABP.
Salut.
Et bon, bonjour, je viens d'arriver de m'installer dans les bateaux de Radio Esperanza. Et donc, on va parler de cette thématique qui nous touche tant à tous. Et c'est Omerta Coloniale, Réveil International. Donc, pourquoi pas avoir des associations qui parlent de ça, justement, parce que le colonialisme est là depuis des années, tant des années. Mais le néocolonialisme, ça nous touche tous les jours. On parle de capitalisme, on parle de ce qu'on nous apprend à nos universités et on parle évidemment de la Palestine. Donc, comment on va faire ce lien-là ? C'est la question.
C'est la question, on va le découvrir.
On va le découvrir.
L'interview qu'on va faire ensemble.
C'est ça. On commence avec une petite introduction. Comme ça, on va amener la conversation tranquillement. Et si ça vous dit. Donc, tu nous dis CADTM, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le CADTM, c'est une ASBL qui est basée à Liège. Et donc, il y a plusieurs pans, en fait, dans ce centre. On va dire que. D'un côté, on fait énormément de recherches sur la question de la dette et sur comment la dette est en fait un mécanisme pour continuer à piller les ressources d'un certain nombre de pays et notamment les pays des Suds, qui sont en fait les pays qui ont vécu une domination coloniale. Donc en fait, on va analyser beaucoup à partir de la question de la dette coloniale, notamment comment aujourd'hui, avec un certain nombre de politiques d'austérité, il y a la possibilité de perpétuer une occupation coloniale.
C'est ça. Et donc, de CADTM, on a aussi Vincent qui vient d'arriver à notre bateau. Bonjour.
Bonjour, je viens de courir, je suis désolé, je suis un peu essoufflé.
Ouais, t'as failli te noyer.
Non, là, c'est bon, là.
C'est bon. Et Manon, oui. Petite introduction
de l'ABP. L'ABP, c'est donc l'association belgo-palestinienne. On est aussi une ASBL qui vise à défendre les droits des Palestiniens. Et pour ça, on a une seule boussole qui est le droit international et donc on vise surtout à sensibiliser les gens à ce propos. Et donc ces derniers mois, ça a été beaucoup de manifestations, beaucoup d'interpellations politiques. Et on est aussi présent partout. Donc on a un bureau à Bruxelles, mais on a des régionales partout en Wallonie aussi.
Oui. Est-ce que je peux demander depuis combien de temps existent les associations alors ?
Pour l'ABP, c'est ça le drame, c'est que l'ABP a été créée en 1975.
Ok, d'accord.
Et je pense que les créateurs de l'ABP n'avaient pas pour but que celle-ci ait plus de 50 ans aujourd'hui.
Ok, ils auraient aimé que ça se termine, clôture plus vite, je comprends.
Et pour le CADTM, ça fait une trentaine d'années que ça existe dans plusieurs pays du monde, en fait dans plus de 30 pays du monde entier.
Oh. Oui. Ouais, oui, juste pour rajouter... C'est fin des années 80, et en fait pour les Français et Françaises, il y a ATTAC qui est né en même temps, donc c'est la taxation pour les transactions financières, et donc c'est amené une approche internationale au rapport économique qui existe entre les pays. Et donc c'est un peu partie de cette énergie-là, et nous ici, le CADTM, on est basé en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Afrique de manière générale. Et donc on essaye d'en faire le lien avec tout ce réseau-là, pour montrer qu'il y a des alternatives qui sont possibles au niveau économique et que c'est important de continuer à les mettre en avant dans les discussions générales.
Okay, super. Avant qu'on continue avec la conversation, on va écouter une autre association qui nous ont fait une petite micro-trottoir. C'est la Brigade Action Paysanne avec François qui nous raconte un peu de ce qu'il s'agit.
Radio Esperanza.
Salut, on est donc avec François qui est pour les BAP. C'est bien ça, on est sur Radio Esperanza. Est-ce que tu vas bien déjà ?
Exactement, pour les BAP. Oui, je vais très bien. Beaucoup mieux depuis que c'est Esperanza.
Super ! Alors moi, j'ai une petite question à te poser. Pourquoi est-ce que c'est une nécessité pour toi d'être sur le site d'Esperanza cette année, chaque année ?
En tant que bénévole ou en tant que simple festivalier ?
Alors, je pense que tu peux répondre de la manière dont tu as envie.
Okay. Pour moi, Esperanza, c'est vraiment une bouffée d'air frais dans un monde qui peut être parfois difficile à vivre, oppressant et tout ça. Et vraiment l'impression que si SP pouvait être généralisé sur une année entière avec le même type de personnes, qu'on nous donnait un bout de territoire et qu'on continuait à s'organiser ensemble, tout irait bien dans le meilleur des mondes. Après, voilà, c'est un peu un discours un peu bisounours, mais ouais, franchement, pour moi, c'est une bouffée d'air frais. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Il y a le côté aussi très inclusif, très, très bienveillant, écologique. Enfin, je sais pas, pour moi, ça représente vraiment une sorte d'idéal. Le fait qu'il y ait aussi un moment de pause, de remise en question, de se dire, OK, là, on est en train de grossir, qu'est-ce qu'on fait ? Là où plein d'autres festivals auraient eu tendance à continuer à chercher d'autres sponsors, à grossir, ben là, il y a eu un moment de OK, on s'arrête. On réfléchit, on voit dans vraiment quelle direction on a envie de continuer à aller. Ça, je trouve ça vraiment incroyable, quoi. Donc, pour moi, c'est un immanquable. Je viens depuis 2013 à Esperanza. Et voilà, je l'ai loupé une fois il y a 2 ans, j'étais en woofing. Et donc, voilà, ça fait un petit temps que je suis dans ces lieux.
Mais François, merci beaucoup. T'as super bien répondu, j'ai adoré ta réponse.
Avec plaisir, super, tant mieux.
Et bien, est-ce que tu peux peut-être quand même nous dire en 2 mots qu'est-ce que c'est les BAP ?
Oui, bien sûr. Donc, ce sont les Brigades d'Action Paysanne. Donc, c'est un collectif de soutien à l'agriculture paysanne et qui milite en faveur de la souveraineté alimentaire. De 2 manières, il y a des chantiers en fait très concrets de soutien à des paysans, des paysannes qui sont en demande et qui sont surchargés par exemple, qui ne s'en sortent pas pour planter leurs patates, qui ne s'en sortent pas dans la construction de nouvelles planches de culture et tout ça. Et donc 2 fois par an, les paysans peuvent faire un appel. Et donc les BAP, deux fois par mois, publient un agenda en disant voilà, tel jour on va dans telle ferme et on appelle, on aimerait bien avoir 10 ou 12 personnes pour venir en soutien, pour donner un coup de main. Ça, c'est vraiment les chantiers très concrets. Et puis, il y a de la mobilisation aussi du plaidoyer politique qui se fait plutôt en partenariat avec d'autres assos comme le CNCD, comme FIAN. Et voilà, donc il y a vraiment deux pans. Moi, je connais plus le pan au niveau des chantiers, vraiment d'aide concrète sur un laps de temps bien défini. Voilà.
C'est magnifique.
Super, vraiment.
Allez, tant mieux.
Merci à toi, cool. François.
Avec plaisir, merci
et
à vous.
Bonne continuation.
Merci à vous aussi. Salut.
Radio Esperanza.
Et c'était donc un micro-trottoir signé par Guillaume et Ludo sur... c'est l'Action Paysanne, c'est ça ?
Brigade d'Action
Paysanne. Ah, la Brigade d'Action Paysanne. Et ici, on est toujours en compagnie avec 2 associations qui luttent. Une association pour la dette internationale, contre la dette internationale, et l'autre association qui est belgo-palestinienne.
Oui, alors moi je voudrais commencer cette conversation pour une question pour les CADTM. Comment est-ce que vous voyez la situation palestinienne ? Comment on traite cette situation dans l'association ?
Alors en fait, au CADTM, on a exprimé depuis le 7 octobre, mais aussi depuis l'existence du CADTM, une solidarité avec le peuple palestinien et avec la reconnaissance de l'existence de l'État palestinien, évidemment, mais aussi dénoncer les crimes qu'Israël commet, et ce, non seulement pas depuis le 7 octobre, mais depuis l'occupation coloniale. Donc en fait, historiquement, avec l'objet du CADTM qui est de défendre l'autodétermination des peuples et surtout dénoncer le système colonial, on reconnaît que Israël s'inscrit dans une logique coloniale et que en fait l'occupation perpétue le colonialisme aujourd'hui.
Est-ce que Israël s'inscrit dans la dette internationale ? Est-ce qu'ils ont eux un impact ou quelque chose et qu'ils font partie directement de la dette mondiale ?
Je me permets de répondre, pardon. C'est-à-dire que le cas d'Israël, il est un peu particulier parce que c'est un État qui, originellement, n'existe pas. Il faut des accords de l'Occident pour que cet État, il existe. Il y a aussi une idéologie, le sionisme, qui vient et qui se met en place et qui est défendu par les armes et par la destruction et qui est imposé aussi par ces armes et sa destruction. Et donc, il y a un léger décalage par rapport à la question de l'endettement pur et dur au niveau international. Ce qu'on reconnaît, nous, au CDTM, c'est le rapport de domination qui existe entre les deux États.
Et
il y a un qui n'est pas reconnu, l'autre qui l'est. Et surtout, depuis la Nakba, il y a eu une stratégie de la part d'Israël de détruire et d'exproprier absolument toute la population palestinienne sur ses terres, et ces terres qui lui permettaient justement de pouvoir subvenir à ses besoins, de pouvoir aussi faire du marchandage. Enfin, marchandage, c'est pas le bon mot. Mais donc, il y a tout ce... La dette, c'est pas uniquement au niveau international, c'est en fait juste dans les rapports au quotidien.
Et
c'est,
d'accord.
C'est un point qu'on essaie de mettre beaucoup en avant aussi.
Je pense que Manon peut nous illustrer un peu sur cette... Je pense que c'est une décision quand même très coloniale, parce que les guerres se sont finies d'une manière ou de l'autre, et les gagnantes ont décidé qu'est-ce qu'il s'est passé. Finalement, c'est une décision de colonialisme.
L'histoire est toujours écrite par les gagnants.
Ouais, toujours. Oui.
Et pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, on a par exemple l'exemple des dattes, les dattes palestiniennes qui sont simplement volées par Israël, qui sont donc cultivées par des Palestiniens sur des terres palestiniennes, qui sont reconnues comme palestiniennes aujourd'hui, et qui sont volées par Israël et revendues par Israël sur le marché international. Et donc nous, on appelle au boycott d'une part des produits israéliens et encore plus de ce genre de produits qui sont directement reliés à la terre, à l'histoire palestinienne sur laquelle Israël se fait de l'argent. Et les Palestiniens ne bénéficient pas du tout du bénéfice de leur travail simplement.
Et comment en tant que consommateur, par exemple tu parles des dattes palestiniennes, comment en tant que consommateur on a une emprise là-dessus? Généralement on est quand même d'accord de dire que le magasin, c'est très flou de savoir la provenance, donc il suffit qu'il y ait plusieurs provenances et on ne sait pas exactement d'où ça vient.
Alors a priori, il y a une, enfin normalement, officiellement, il y a une législation qui est passée en 2020 qui oblige, en tout cas en Belgique, à bien étiqueter si ça vient d'une colonie, si ça vient de Palestine ou si ça vient d'Israël. Dans les faits, c'est très compliqué effectivement. Évidemment, on recommande les circuits courts et de discuter avec que vos commerçants soient des individus et non des grosses machines, des grosses boîtes. Et donc là, directement, parler avec la personne en lui demandant chez qui elle se fournit, est-ce qu'elle connaît ses fournisseurs, est-ce qu'elle sait. Voilà, c'est essayer de retracer, en fait. Mais bon, ça, c'est tout toute la boucle du circuit court et de consommer local et de consommer éthique dans laquelle on peut s'inscrire. Et puis plus largement, les dattes, il faut faire très attention, mais c'est aussi tous les produits qui sont mal étiquetés. Et effectivement, on n'a pas de pouvoir là-dessus, si ce n'est de mettre la pression. Parce que l'ONU a créé une base de données qui reprend toutes les entreprises qui commercent, par exemple, dans les colonies israéliennes. Et cette base des données n'est pas mise à jour, ou l'ONU n'a pas les moyens. Donc ce qu'il faut, c'est aussi mettre la pression à ce niveau-là et sur nos gouvernements pour qu'ils mettent à jour ces bases de données, qu'ils investissent là-dedans pour pouvoir faire la recherche suffisante.
D'accord.
Et du coup, là, on revient à la dette internationale, parce que plus on intervient en mode européen, plus les pays colonies vont être endettés. Donc, comment on pourrait agir envers la situation, mais aussi sans créer une dette, par exemple.
Une dépendance, en fait.
Ou une dépendance des Palestiniens ou des Israéliens, parce que pour l'instant, c'est ça, les Israéliens dépendent un peu de cette relation qu'ils ont avec l'Europe. Mais si, à un moment donné, l'Europe décide de couper relation et dire, bon, voilà, on va quand même prendre la décision, Palestine existe, là, ça s'en va s'inverser, en fait. Le problème est très grave, parce que toutes les deux sont dépendantes de la décision que les colons vont prendre. Alors, comment vous pensez que ça pourrait se tourner, par exemple?
Je pense qu'il faut renforcer les organisations et les personnes palestiniennes pour pouvoir justement libérer cette dépendance vis-à-vis d'Israël qu'ils ont mutuellement. Mais il y a aussi toute la question des taxes, par exemple, où Israël prend les taxes et les Palestiniens, puisqu'ils n'ont pas de frontières reconnues dont ils ont, sur lesquelles ils ont la souveraineté, ils versent leurs taxes à Israël et c'est Israël qui doit... Et donc c'est sur Israël que ça repose.
En fait, au CADTM, on essaie vraiment de poser la question aussi plus largement quand on parle de notre consommation, de notre vie quotidienne, de qui doit, en fait, à qui on doit notre quotidien, à qui on doit les produits qu'on achète, à qui on doit notre richesse et éventuellement l'accès à beaucoup de produits dans la vie de tous les jours. Donc en fait, avec cette question de base, on peut aussi se poser la question de à qui Israël doit sa richesse. Et donc dans la question des produits et des biens de consommation, il y a ça reprend un peu ce que tu disais juste avant, mais en fait c'est aussi pour qu'il y ait la vraie reconnaissance du peuple palestinien sur l'accès à leurs terres et à ceux qu'ils cultivent, qu'ils et elles cultivent, et tout simplement arrêter en fait la colonisation des terres qui continue, qui a été condamnée par le droit international très récemment, pour qu'en fait il y ait une véritable souveraineté alimentaire, mais surtout l'accès à ces produits pour la Palestine, pour qu'éventuellement eux entrent dans une dynamique où ça peut permettre de vivre de ça, que ce soit à une échelle très petite pour des fermiers ou à une échelle beaucoup plus grande pour enrichir le pays. Mais là, la situation est telle qu'on est loin de là, quoi.
Peut-être une question un peu difficile à répondre parce que je me doute que la liste va être très longue, mais quelques exemples de pays qui sont endettés et auprès de qui en fait, parce que je me dis en tant qu'auditeur, une dette c'est quelque chose, une dette mondiale c'est une autre, et c'est une notion qui est assez floue. Peut-être donner des cas concrets de qui est endetté auprès de qui pour qu'on resitue justement, si on a envie de passer par le circuit court, sur quel levier est-ce que je dois appuyer, quoi.
Je voudrais revenir par rapport à tout ce qui a été dit, avec lequel je suis 100% d'accord. Il y a un élément sur lequel je pense qu'il est vraiment important d'appuyer, de mettre très fort en avant, c'est notre engagement à un niveau individuel. Cet engagement à un niveau individuel, en fait, il passe aussi par un processus de reconnaissance. Genre qui on est, d'où on vient et comment ça se fait qu'on a ces privilèges ici. Ce rapport, déjà, il faut se l'imposer. C'est du travail, ça prend du temps. Et ça prend de l'énergie et ça peut mener aussi à des conflits. Et on parle de conflits, je me dispute avec ma petite sœur. Hein. Je ne suis pas en train de me prendre des grenades, de planquer dans ma ville, dans la bande de Gaza. Enfin, on n'est pas du tout en train de hiérarchiser la douleur. Donc je pense que la première chose, déjà le premier terrain sur lequel on doit appuyer, c'est ce processus de reconnaissance à un niveau individuel. Et moi je vous parle, je suis un petit blanc, j'ai grandi en province du Luxembourg. La deuxième chose, c'est sur ce que tu viens de poser comme question, on est endetté envers qui? En fait, il faut bien se rendre compte que absolument tous les pays sur Terre sont endettés auprès d'absolument toutes les institutions. Alors il y a différents types d'endettement, il y a des endettements multilatéraux, il y a des endettements privés et des endettements auprès d'autres États. Et donc il y a ces rapports de domination en fait, mais même, on peut vraiment le dire, de colonisation économique, et c'est pour ça que je m'étale un petit peu là, mais je pense que c'est important de ne pas parler de néocolonialisme, mais de continuité de colonialisme. Je pense que c'est vraiment important dans ce processus de reconnaissance de reconnaître qu'en fait le truc il existe depuis 600 ans.
Il ne s'est jamais arrêté.
Il ne s'est jamais arrêté, juste il a pris d'autres formes. Tu veux rebondir peut-être?
En fait c'était pour ajouter aussi, merci Vincent pour tout ce que tu as dit. C'était aussi pour dire qu'en fait il y a plusieurs cas très concrets sur lesquels on travaille au CADTM, plusieurs types de dettes, et on commence par la dette coloniale. Donc en fait on revient à la situation dans laquelle les pays sont devenus indépendants au moment de la colonisation. En fait, il y a de nombreux pays, comme je pense notamment à la France, je parle en tant que Française ici, qui s'est endetté énormément pour payer en fait la colonisation, donc auprès de la Banque de France. Et donc il s'agit de payer les navires, il s'agit de payer l'importation d'un certain nombre de produits. Et en fait, au moment de la négociation de l'indépendance de nombreux États, les États ont en fait, la France, je veux dire, a dit ok, très bien, vous voulez être indépendant, mais par contre, il va falloir rembourser ce pourquoi nous, on s'est endetté. Et en fait, là, je parle par exemple très concrètement, c'est Haïti, à la fin du XVIIIe siècle, qui, au moment de l'indépendance, en fait, la France a dit ok, soit on vous attaque de nouveau et on reprend possession des terres, notamment des plantations de canne à sucre, c'est pourquoi le sucre fait partie aujourd'hui de notre quotidien. Soit, par contre, vous remboursez notre dette. Donc, en fait, il y a d'abord cette dette coloniale qui, au final, a commencé. En fait, donc, ces pays sont indépendants et dans une situation de surendettement. Donc, en fait, il y a d'abord ça où le CADTM a commencé par demander l'annulation de ces dettes qui, au fur et à mesure, ont en fait énormément. Ont accroissé, on va dire.
Oui, c'est ça.
Avec un certain nombre d'événements économiques et politiques qui ont augmenté les taux d'intérêt, de remboursement. Donc en fait, après je peux m'arrêter, mais parler des autres types de dettes sur lesquelles on travaille, mais je vois que...
Mais ce sont donc des dettes quand même qui sont très anciennes. On ne parle pas de choses qui sont nouvelles, c'est presque obsolète. On ne vit plus dans le même monde, ce ne sont plus les mêmes personnes. Donc c'est des choses presque... C'est des reliques du passé, ces dettes, finalement.
En fait, c'est des reliques du passé, mais on commence souvent par cet épisode-là pour parler petit à petit de pays qui vont se retrouver dans une situation où ils ne peuvent plus rembourser, parce qu'en fait, ils sont dans un tel moment de surendettement qu'ils vont avoir besoin de se tourner vers des institutions internationales et multilatérales dont parlait Vincent à l'instant. Donc en fait, ici, on parle de la Banque mondiale qui a prêté à de nombreux pays des Suds. Et pour ça, en fait, il y a plusieurs acteurs. Il y a aussi le Fonds monétaire international, le FMI. Et en fait, pour pouvoir rembourser, le FMI a en fait mis en place ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel dans les années 80, qui sont en fait des mesures d'austérité. Donc en fait, qui disent, OK, vous êtes dans une telle situation de surendettement que si vous voulez rembourser, eh ben, il va falloir couper le budget du service public, couper le budget de la santé, couper le budget de l'éducation. Donc en fait, on est obligé au CADTM de commencer par une ligne du temps pour petit à petit expliquer une situation qui aujourd'hui est... En effet, il y a de nombreux pays, et ça vous avez raison de le pointer du doigt, qui ont déjà remboursé leurs dettes. Et c'est le cas aussi du Congo, en fait, de la République démocratique du Congo. Il y a exactement le même cas de figure pour la Belgique et le Congo. La RDC a remboursé sa dette, mais en fait, petit à petit, le Fonds monétaire international a imposé des mesures d'austérité qui ont permis un certain nombre de privatisations de certaines ressources, aussi l'intervention d'entreprises internationales et la possibilité pour ces entreprises non congolaises de s'approprier les ressources du pays pour elles-mêmes organiser l'exportation de minerais.
On dit un des problèmes principaux, c'est que l'accord financier, c'est défini par les institutions. Finalement, là, les pays, ils ne vont pas prendre des décisions. C'est eux qui disent, vous devez me payer.
En fait, c'est vraiment très simple. Le capitalisme, c'est l'accumulation de capital.
C'est ça.
Le néolibéralisme, c'est cette notion de privatisation au maximum, d'ouverture, de libre-échange. Et ce sur quoi c'est fondé, c'est un rapport de déséquilibre, c'est un rapport de domination. Si on reprend l'esclavagisme, l'esclavage, en fait, 400 ans aux États-Unis, les États-Unis, c'est quoi? C'est le royaume du capital. Basé sur quoi? Basé sur quelles ressources? Et en fait, à partir du moment où on garde ça à l'esprit, on peut construire notre argumentation. Mais si on part pas de ce point de vue-là, c'est difficile d'après comprendre vraiment quels sont les enjeux et quels sont les rapports entre les pays.
Et puis, on est arrivé dans les années 90-2000, où on s'est dit, allez, on va faire un libre-échange. Mmh. Est-ce que le libre-échange a aussi impacté cette dette internationale? On parlait tantôt des dates de Palestine. C'est un exemple intéressant à voir. Mais par rapport aux autres pays qui étaient colonies ou des pays qui étaient les colonnes, est-ce que ça a aussi été impacté beaucoup?
Tout à fait. En fait, il y a un impact qui est énorme sur... La production des pays qui vont se tourner vers, par exemple, la monoculture. Donc, en fait, qui vont se concentrer uniquement sur un produit, par exemple, les céréales uniquement. Et donc, petit à petit, qui vont dépendre du commerce international, de l'exportation de leurs produits principaux pour pouvoir assurer leurs revenus. Et en fait, ils vont petit à petit perdre une souveraineté alimentaire. Alors que, voilà, c'est-à-dire, c'est quand même... un des impacts principaux du libre-échange et de la libéralisation du marché, et un des impacts qui est très grave pour beaucoup de populations en fait, qui ont perdu aussi leur véritable pouvoir d'accès à la subsistance, c'est-à-dire à la plantation de leur nourriture de tous les jours. Voilà, c'est un exemple assez précis. Je ne sais pas, on parlait des dates, peut-être si tu veux ajouter quelque chose.
D'accord. Est-ce que ça vous dit si on écoute encore un petit micro-trottoir?
Bien sûr, vivement les festivaliers. Là.
C'est ça, et on écoute notre association. Donc, c'est Guillaume qui va nous parler de l'association Amis de la Terre.
Radio Esperanza.
Salut, donc on est avec Guillaume, qui est donc pour les Amis de la Terre, c'est ça?
C'est bien ça.
Tu peux nous en parler en deux phrases, peut-être?
Oui, alors les Amis de la Terre, on est une association environnementale qui essaye de militer, de pousser les citoyens à militer pour un changement de société, pour qu'ils soient plus respectables du monde, du vivant, de la planète et de ses occupants.
C'est trop cool. Ok, moi j'ai une petite question à te poser. C'est quelles autres institutions similaires à Esperanza qui participe donc à ce mouvement et donc aussi du mouvement dont tu parles, connais-tu et dont tu pourrais citer le nom, par exemple ? Un genre d'égal à ça ?
Là, comme ça, un festival ou style festival de la CMO ?
Une institution, quelque chose, un mouvement où tu as participé peut-être ou que tu connais et dont tu auras envie de parler aussi ?
Oui, bah, y a quand même dans le milieu associatif pas mal d'ASBL, enfin beaucoup de ASBL collectifs citoyens, qu'ils soient formels ou informels, peu importe. Je trouve beaucoup de mouvements citoyens qui vraiment se mobilisent autour de toutes ces questions, qu'elles soient tant plutôt sociales, politiques, environnementales, etc., etc. Et donc c'est justement la convergence de toutes ces associations, de toutes ces actions qui portent ses fruits.
Et tu as une idée d'un autre mouvement que Esperanza qui te vient en tête ?
Là comme ça j'avoue non, exactement. Vous me prenez de court, mais je pense au soulèvement de la terre ou les mouvements en transition, ce genre de choses quoi. Un peu voilà.
Super. Bah écoute, merci à toi Guillaume.
Oui. Bonne journée.
Radio Esperanza.
Et c'était le micro-trottoir de Guillaume et des Amis de la Terre. Voilà une ASBL qu'on peut retrouver ici au Village des Possibles à Esperanza. Et donc on est toujours en compagnie de deux associations qui sont avec nous. Une association qui lutte par rapport à la dette internationale et une association belgo-palestinienne qui est on ne peut plus d'actualité actuellement parce qu'il ne faut pas cesser d'en parler. Le conflit fait toujours rage. Nous on est ici. On est bien tranquille, j'ai envie de dire, mais il faut avoir conscience qu'à l'autre bout du monde, ça n'est pas le cas. On parlait notamment donc de libre-échange et j'aimerais bien revenir là-dessus justement parce que le libre-échange, ça favorise d'une manière ou d'une autre l'intérêt de l'un et le désintérêt de l'autre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui rentre dans cette dynamique-là par rapport à Israël et par rapport à la Palestine ? Parce que, est-ce que la Palestine n'est pas isolée d'une certaine manière de ce droit au libre-échange ?
Clairement, puisqu'ils n'ont pas d'État reconnu, qu'ils ne sont pas souverains d'aucune frontière. Pardon, c'était quoi la question ?
C'était un très bon début de réponse. Je te demandais donc, est-ce que d'une certaine manière, on peut dire qu'à cause du conflit qu'a entraîné Israël, la Palestine se retrouve coupée de son droit à ce libre-échange qu'on prône d'une certaine manière partout dans le monde et d'un seul coup, on n'exclut pas.
Ouais, la souveraineté est complètement impossible pour le peuple palestinien dans les conditions actuelles où effectivement il n'a aucune prise sur ses frontières. Donc, pas possible de faire du libre-échange parce que tout passe par Israël et par l'aval d'Israël.
Oui. Moi, je voulais vraiment. Il y a un point quand même qui me chagrine un petit peu, c'est que je trouve ça un peu hors de contexte de parler de libre-échange par rapport à Israël, par rapport à la Palestine surtout, puisque ça fait 80 ans que les villageois et villageoises se font raser la gueule ouvertement aux yeux de toutes et tous. Et de venir en posant la question du libre-échange, en fait, j'ai l'impression qu'on passe certaines étapes, et notamment le processus de reconnaissance historique. Il y a un super auteur qui vient de sortir un livre, enfin qui a déjà sorti un livre il y a 20 ans et qui vient de donner sa réédition, qui s'appelle Le nettoyage ethnique de la Palestine. Ilan Pappé, il s'appelle. C'est un auteur israélien, donc il est issu de ce milieu-là et il a vu comment les choses ont évolué. Et ce qui est vraiment très horrifiant, si je peux me permettre, c'est que le discours qui tient il y a 20 ans sur l'augmentation de la violence et de l'agression, il est ultra pertinent aujourd'hui. Et on n'a pas envie de dire le mec l'a prédit, putain c'est un génie, pas du tout. C'est juste qu'on a les éléments pour les reconnaître. Et donc, pas parler de libre-échange avec la Palestine, en fait c'est surtout tout d'abord reconnaître le fait que l'État n'existe pas. Et donc on ne peut pas parler de libre-échange avec un État qui n'existe pas, puisque cet État et les individus qui le composent se font tuer depuis 80 ans, tous les jours, tout le temps, que ce soit leur famille, leurs enfants, leur maison, leur héritage, tout ce qui existe est détruit et annihilé. Et le parallèle qu'il fait, il n'a pas fait, je clôture avec ça, c'est le nettoyage ethnique qui a lieu en Europe, dans les Balkans, avec l'ex-Yougoslavie, la Serbie, dans les années 90, et ce que ça représente, on parle du Kosovo, on parle de l'Arménie, je généralise un petit peu, mais donc cet élément-là, il est vraiment important à prendre en compte, parce que cette reconnaissance-là, on ne l'a pas pour la Palestine. Donc parler de libre-échange pour la Palestine, c'est quelque chose de très compliqué, parce qu'il y a des gens qui se font juste tuer tous les jours.
Ok, oui, bien sûr. Mais donc, on peut dire que invisibiliser un pays comme Israël le fait avec la Palestine, justement, et comme l'Europe est finalement coupable de ne pas reconnaître, effectivement, de ne pas reconnaître un État, l'invisibiliser, c'est d'une certaine manière garder le contrôle sur le fait que cet État n'existe pas, et donc lui refuser, par exemple, de l'aide internationale. Je me tourne plus vers l'association Belgo-Palestine. Comment est-ce que on peut venir en aide à un État qu'on invisibilise, pardon, excusez-moi.
Mais renforcer sa société civile, c'est le plus important. Aujourd'hui, on a une autorité palestinienne qui n'a aucune légitimité aux yeux des Palestiniens et des Palestiniennes, et voilà, qui est corrompue de toutes parts. Et c'est le projet même, au moment des accords d'Oslo, c'est de faire de l'autorité palestinienne ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose sans un gouvernement sans subsistance. Et donc la solution pour aider directement les Palestiniens et Palestiniennes, c'est de soutenir la société civile en elle-même. Il y a beaucoup d'organisations palestiniennes sur plein de sujets, sur tous les sujets en fait, que ce soit des organisations de droit international, des organisations qui fassent de l'aide directe. Il faut soutenir les Palestiniens et les Palestiniennes, c'est la meilleure manière qu'on a de les aider, parce que ce qui est fait sans eux est fait contre eux. Et donc c'est là où fait tout son sens, c'est de faire les aider directement. Et nous, pas de nous justement aller et faire des choses en Palestine. Non, on doit soutenir les Palestiniens qui font des choses pour les Palestiniens.
Oui, parce que d'une manière, si on... Oui, pas nous en tant que tel, hein, je parle bien, mais d'un État qui viendrait aider Palestine, peut-être une fois que si c'est reconnu que c'est un État à part entière, peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait imaginer que le pays décide de dire « Ah ben, je suis venu t'aider, donc tu me dois quelque chose », et on joindrait alors un peu la dette internationale, parce que c'est comme ça que s'est mis beaucoup de dettes, finalement. C'était ce côté aussi « je viens t'aider », on pense notamment à l'Afghanistan, où l'Europe est venue, et puis ensuite « Ah, je repars et je te demande des choses en retour », quoi.
Oui. C'est vrai qu'au CADTM, on est un peu frileux sur la question de l'aide humanitaire. En fait, comme c'est, encore une fois, une ASBL anticoloniale, antiraciste, il y a en fait aussi la reconnaissance, d'un problème dans l'idéologie du développement, dans l'idéologie humanitaire. En fait, on reconnaît que avec la question de « Ok, on arrive, on vous aide à vous reconstruire, on va... » En effet, c'est nécessaire dans des cas de crise et la situation est très difficile, surtout quand il s'agit de nourriture. Et là, dans le cas de la Palestine, il s'agit de besoins de base. Mais en général, au CADTM, on pointe du doigt aussi l'idéologie du développement qui justifie beaucoup de prêts de la Banque mondiale. En fait, la Banque mondiale, le FMI vont prêter aux pays surendettés, souvent sous couvert de développement. En fait, il s'agit plus c'est souvent comme ça que se nomment en fait les prêts littéralement d'argent pour régler une question d'accès à l'eau, pour régler. Donc en fait, on pointe aussi du doigt ceci parce qu'on part du principe que il y a aussi une idéologie coloniale derrière, avec une supériorité en fait des pays des Nord, des institutions financières, avec une manière de dicter quelle est la meilleure chose à faire. Et donc c'est contre l'autodétermination des peuples, c'est contre la souveraineté d'un État. Et voilà, donc c'est aussi pour situer sur la question de l'aide. En tout cas, voilà, c'est l'idée du CADTM aussi.
Oui, et donc, si on parle un peu d'éducation, on parle des universités, des écoles primaires, secondaires, est-ce que vous pensez que la matière a évolué au cours des années? On parle vraiment aux enfants et aux jeunes de ce qui se passe aujourd'hui, ou on est resté sur ces discours où on dit on a envoyé colonne en Amérique, on a conquéri l'Amérique et c'est tout, où on parle de aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans les pays? Il y a des pays qui ne sont pas reconnus toujours, et il y a des pays qui luttent toujours contre la dette internationale, comme l'Haïti, qui est un des pays de l'Amérique latine qui est le plus pauvre à ce moment-là. Et moi, en tant qu'Amérique latine, de l'Amérique latine, on le voit comme ça. Les Haïtiens sont les pauvres. Mm-hmm. Parce que nous aussi, on a été colonisés. Mm-hmm. Et nous aussi, on dit, comment on s'en sort? Tant pis pour eux. Alors, à l'école, est-ce qu'on apprend ça?
Je vais me remettre de commencer, pardon. Moi, il y a un auteur que je trouve vraiment très pertinent qui s'appelle Ivan Illich et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Une société sans école ». Et donc, la démarche dans laquelle lui s'inscrit, c'est une démarche tout d'abord de reconnaissance, ce que je disais tout à l'heure, mais une démarche de reconnaissance dans le système idéologique et hégémonique dans lequel on évolue. Et donc, si on part d'un point de vue une école ou un système éducatif, le système éducatif, il est financé par un État qui n'est pas neutre. Rien n'est neutre, tout est politique. Et donc, c'est vraiment important déjà de reconnaître ceci. Et par extension, le système éducatif est un système hégémonique qui tend à reproduire les valeurs que celui-ci défend. Parce que sinon, juste plus de financement, t'as un système de merde, tes profs ils sont surpayés, ils sont sous-payés et tes classes elles sont overbooked. Et en fait, on se rend compte que c'est la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Sur la question de l'enseignement public en lui-même, et même admettons privé ou en lien avec les cathos qui existent sur Terre, nous c'est un peu notre job en fait. Nous on fait de l'éducation permanente ici au CADTM. L'éducation permanente c'est un système d'éducation en dehors des institutions traditionnelles, sous-entendu, les écoles. Et donc par rapport à ça, ce qui est super intéressant, c'est qu'on autorise, et c'est ce que vous faites ici aujourd'hui avec cette radio, ici à Esperanza, on autorise à avoir un contre-discours. Et ce contre-discours, il est super pertinent parce qu'on a le droit de s'opposer au discours normatif dominant qu'on reçoit dans les écoles. Pour conclure vraiment, c'est mon dernier point. On ne fait pas assez sur la question décoloniale dans les écoles. On ne fait pas assez. Je me souviens de mes cours de secondaire en 4e ou 5e où j'ai 2 heures d'éducation sur la colonisation du Congo. Alors que putain de merde, les gars, on les a massacrés. C'est horrible. On n'en parle pas. Et dans la société aujourd'hui, on commence de mieux. On fait de plus en plus d'efforts. C'est pas encore suffisant. Et le système éducatif, il suit pas. Pourquoi ? Parce que coupe budgétaire, parce que austérité et parce que idéologie basée sur la fermeture des frontières, la fermeture du soi. Et on ne peut pas s'en sortir dans ces situations-là. Voilà.
Manu, tu allais dire quelque chose ?
Bon, c'était beaucoup moins développé que Vincent, mais c'est juste pour rajouter que d'un point de vue très concret, dans les programmes au secondaire, j'ai pas l'impression qu'on parle de la dette. Et en fait, j'allais aussi vous poser la question à vous tous et toutes autour de cette table. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la dette coloniale ? Est-ce que, en fait, c'est pas un sujet, et c'est pour ça que Vincent l'a déjà dit, que nous, on fait de l'éducation permanente. De l'éducation populaire en Wallonie, c'est aussi pour réfléchir ensemble à cette question qui est super importante et aussi parce qu'elle est complètement absente des programmes scolaires. Et moi j'ai appris que très tard à l'université, mais vraiment déjà dans un cursus de cinquième année d'études quoi. Il n'y avait absolument aucun cours là-dessus, même en économie, rien du tout quoi.
Perso, j'ai déjà entendu parler de la dette, mais effectivement, c'est parce que j'ai fait des études de coopération internationale et dans le cours, ça va pas te plaire, mais d'économie du développement. Et donc, c'est là où on a abordé la question, mais du coup, d'une manière très intéressante parce que c'était justement un professeur congolais qui, du coup, avait son prisme et qui était très intéressant. Donc, c'est intéressant que le cours soit donné par lui. Mais effectivement, avant ça, oui, FMI, Banque mondiale, mais tu sais pas à quoi ça raccroche, quoi.
En fait, tant qu'on n'a pas un changement un peu de paradigme aussi, tant qu'on continue aussi à avoir cette vision comme quoi on est des pays développés contre la moitié du monde qui est sous-développé, qui est pauvre, et c'est omniprésent dans nos représentations, dans notre imaginaire, quand on imagine les pays pauvres des Suds. En fait, tant qu'on ne change pas aussi cette vision et qu'on ne se dit pas « Ok, pourquoi on est des pays qui soi-disant sont développés, entre guillemets, d'où vient notre richesse ?» Pourquoi est-ce que nos pays sont devenus riches ? Et encore une fois, je le répète, moi je parle d'un point de vue d'une Française. Je viens de Nantes, c'est une ville qui est un ancien port pendant la traite atlantique, donc en fait qui s'est fort enrichi avec le commerce des esclaves en Afrique. Ouais. Et en fait, tout ce lien, c'est énorme sur l'enrichissement de la France. Mais en fait, entre là, en effet, je parle de quelque chose qui est historique, mais déjà, de un, on n'en parle pas assez. Non. Et de deux, il faut aussi comprendre encore l'impact que la France a en Afrique de l'Ouest. Mmh. La présence d'énormément de compagnies françaises qui continuent d'exploiter, d'avoir accès à un certain nombre de ressources, d'avoir la main mise sur la construction, sur le bâtiment, sur les réseaux. Je parle de compagnies très concrètes, de Orange, je pourrais faire la liste sans arrêt, mais je m'arrête là. Mais c'est pour dire que non, on n'en parle pas du tout tant qu'en fait on ne change pas aussi. Je parle d'épistémologie, c'est-à-dire les mots qu'on utilise aussi pour parler de l'accès à la connaissance. Si c'est développement contre sous-développement, pour l'instant, on est dans le mur pour moi.
Ok.
Mais j'ai aussi l'impression qu'on a une facilité à parler des événements une fois qu'ils sont terminés.
Bien sûr.
Et puisque c'est pas terminé et qu'on a encore un joug en Afrique et partout, on a du mal à en parler et à le dire à nos enfants. Et pour la Palestine, c'est pareil. Hein, on sent qu'il n'y a rien dans le programme officiel qui soit très concret, très de fond. Et c'est un peu en fonction des professeurs, si eux, ils ont envie de le, elles et eux ont envie de l'aborder. Et en fonction de comment elles et eux ont envie de l'aborder. Déjà, s'ils le veulent et comment ils le veulent. Donc, ça, c'est un prisme très. Un parti très pris sur cette question-là, à l'école, en tout cas, je veux dire, dans le cursus obligatoire. Oui, et on le sent, nous aussi, du coup, on est une association d'éducation permanente, et on le sent clairement. Il y a des gens qui nous disent, c'est quoi la Palestine, quoi.
Oui.
Donc, oui, on le sent. Et puis que la Palestine est un symbole aussi.
Vous avez déjà eu l'occasion comme ça d'intervenir dans des institutions plutôt scolaires? Est-ce que ça vous est arrivé qu'une école vous contacte par rapport à un sujet ou à un autre pour venir donner cette éducation permanente ou pas du tout?
Nous, à l'ABP, on est souvent contactés par des écoles, donc on y va souvent, mais c'est très souvent, encore une fois, la volonté d'un professeur et pas de l'école ou de l'institution, du directeur, de la directrice, mais d'un professeur, d'une professeure en maths, en histoire, en géo ou en géopolitique, des sujets très précis, mais jamais d'école vraiment qui veuille, quoi.
D'accord.
Ouais,
Vincent.
Pour répondre à cette question de notre côté, déjà d'une part, l'éducation permanente, le décret éducation permanente, c'est un décret qui s'adresse aux adultes de plus de 18 ans avec un diplôme de secondaire maximum. Et donc, c'est-à-dire que si vous vous adressez à un public de secondaire, d'université ou de haute école, vous ne pouvez pas être reconnu comme étant en éducation permanente.
D'accord.
Donc ça limite déjà un peu notre champ d'action. Mm-hmm. Pour ce qui est des étudiants et étudiantes en secondaire, ces personnes-là ne rentrent pas non plus dans notre cadre d'action. Et donc ça veut dire qu'on n'est pas reconnu non plus pour pouvoir aller donner des cours par rapport à ces questions-là, par rapport à la Palestine, mais on peut parler de la République démocratique du Congo, on peut parler du Soudan, on peut parler des Kanakis en Nouvelle-Calédonie. Enfin, c'est un débat qui est vraiment global, c'est vraiment très important. Et donc ce défi-là, de devoir passer, comme ma collègue vient de le dire juste à côté, de devoir passer par une demande spécifique d'un professeur ou d'une professeure pour pouvoir venir presque combler en fait un manquement dans le programme de l'année des 4e ou des 5e secondaires, ça traduit aussi les limites de notre système éducatif institutionnalisé.
Effectivement, parce que si les profs nous appellent, c'est parce qu'ils sentent qu'il y a un gap, quoi.
Oui,
ok. Eux ne sont plus en fait formés d'une certaine manière à répondre à une demande peut-être que les étudiants ont, parce qu'aujourd'hui, il faut être tout à fait honnête, par exemple, un enfant de 14-15 ans, avec son téléphone, il peut être au courant de plein de choses. Et je me dis, il doit y arriver des moments où en classe, il se retrouve face à un sujet, parce que c'est des sujets très complexes, où le prof qui a peut-être étudié il y a 20 ans à l'université, sachant que généralement les cours ne se renouvellent pas, soyons tout à fait honnêtes, le prof se retrouve complètement perdu. Et est-ce que vous pensez que c'est quand même une volonté des institutions peut-être de faire en sorte de cadenasser le système pour que vous ne puissiez pas, vu que tu m'expliques la difficulté de trouver le public, est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est juste une erreur entre guillemets de système, quoi?
Moi, je suis d'accord avec la question que tu poses, enfin, les termes que tu utilises. Il y a deux choses. La première, c'est que oui, de fait, le système, il est cadenassé. Il est cadenassé pourquoi ? Parce qu'il y a des valeurs à défendre et à mettre en avant. Si on prend un cas très concret, qui est par exemple le cas de la colonisation ici en Belgique, on a des statues partout à Bruxelles. On pense à Ixelles aussi, qui est un quartier qui est vraiment l'héritage du transfert vers les colonies. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Et quand on pense à nos frères et à nos sœurs qui viennent de République démocratique du Congo, qui sont issus de ces milieux-là, et qui arrivent à Bruxelles de fait, de par l'immigration, et qui se retrouvent face à des putains de statues qui te rappellent que c'est le général Storm qui a massacré la moitié de l'Est du Congo. Désolé, j'ai extrapolé un peu, mais dans l'idée, c'est ça. Je pense que là, déjà, il y a un problème. Donc, il y a déjà une défense de la part des institutions. La deuxième chose, c'est que je voudrais vraiment très fort valoriser le travail que les professeurs font, qui est un travail vraiment absolument horrible. Se retrouver dans des classes avec 35 élèves et devoir faire face à justement la multitude des caractéristiques de chacun des individus qui composent cette classe, et en plus de ça, de devoir travailler avec l'institution pour tenter de faire valoriser tes valeurs et en même temps être confronté. Il y a tellement d'obstacles. Ces personnes-là font un travail de malade et elles font du mieux qu'elles peuvent, j'imagine. En tout cas, je l'espère et c'est mon espoir. Mais vraiment, c'est probablement un des derniers remparts qu'on doit investir encore aujourd'hui pour pouvoir continuer à défendre ce qu'on veut défendre.
Et on sent que si les profs nous appellent, c'est qu'ils ont envie de bien faire, qu'ils se sentent un peu dépassés par la situation et qu'ils n'ont pas toutes les connaissances, qu'ils se sentent pas, voilà. Mais qu'ils ont envie de bien faire et de bien informer, surtout s'ils appellent l'association belgo-palestinienne, c'est qu'a priori, ils sont du bon côté de l'histoire.
C'est ça. Bon, je vous propose une petite pause musicale parce qu'on est super engagés. J'adore. Mais il faut boire de l'eau, il faut se poser. On va écouter justement un artiste de l'Amérique du Sud. Il n'y en a pas beaucoup cette année, mais on a quand même. Elle sera là demain, c'est Alumine Guerrero. Sera là demain dans la scène Jardin à 14h45. On va écouter la chanson Los Pies.
Radio Esperanza.
Radio Esperanza. Radio Esperanza.
Et salut, du coup, je suis avec Marie pour Pâques. Est-ce que tu peux nous parler en deux mots de Pâques ? s'il te plaît.
Bien sûr. Bonjour. Alors, PAC, c'est Présence et Action Culturelle. Nous, on est la régionale de Namur, mais on a un mouvement d'éducation permanente qui est présent sur toute la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles, en gros. On n'a pas de sujet de prédilection bien fixe. On peut parler potentiellement de tous les sujets du moment qu'on pousse les gens à se questionner sur la société et sur comment la changer. En gros. Voilà.
J'adore. Du coup, j'ai une petite question à te poser. Pourquoi est-ce que c'est une nécessité pour toi d'être sur le site de Esperanza cette année ou chaque année peut-être ?
Alors, nous, on vient chaque année à Esperanza depuis déjà quelques années avec un groupe d'écrivains publics. On coordonne des écrivains publics qui sont des personnes qui sont formées à aider des gens qui ont des problèmes avec la maîtrise du français ou de l'écriture ou la compréhension simplement de certains formulaires et donc qui vont les aider peut-être à faire un CV, à remplir un formulaire, à postuler en ligne, des choses comme ça. C'est aussi des gens qui ont aussi une visée politique de porter la parole des gens qui sont plutôt invisibles. Et donc, nous, on vient chaque année à Esperanza pour justement un peu porter une parole qui n'est pas forcément la nôtre, mais qui sont celles de personnes plus fragilisées.
Quel programme magnifique. Moi, j'adore. Mais écoute, Marie, merci beaucoup pour ta réponse. C'était trop chouette.
Merci à toi.
Et bon voilà, on est de retour au village de Possible avec Radio Esperanza. On a entendu un petit micro-trottoir de Guillaume qui a parlé avec Marie de la PAC, Présence et Action Culturelle. Et il y a beaucoup d'associations qui sont présentes ici aujourd'hui. Il faut venir au village de Possible. On se trouve tout en haut de l'abbaye de Floref, en face de la scène jardin, qui est la scène principale. Et on parle donc avec deux associations très intéressantes, surtout pour la thématique de cette année qui est Omerta Colonial Réveil International. On a les CADTM et ABP qui nous parlent de la dette internationale ou dette illégitime et de la Palestine. Et comment on a parlé de beaucoup de choses. Et si vous arrivez justement à nous écouter, ne vous inquiétez pas. Les enregistrements seront online. Vous pourrez aller à radioesperanza.be et trouver les enregistrements avec les interviews. Et on parlait donc d'éducation, éducation permanente. Qu'est-ce qu'on fait dans les associations pour que les élèves des écoles ou universitaires apprennent un peu plus de ces deux thématiques que finalement c'est lié au colonialisme. Et je parlais avec eux quand on faisait la pause parce que je viens de Colombie et c'est un pays qui évidemment était endetté à cause du colonialisme et qu'on ne parle pas de cette dette. Et finalement, on nous dit toujours à l'école, bah oui, on est un pays en voie de développement, mais qu'est-ce que ça veut dire un pays développé ou un pays non développé? Ça, on ne nous l'explique pas. Est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait m'expliquer? Vincent.
Oui, moi j'ai fait des études en communication politique et c'est un sujet que je trouve super intéressant, justement la sémantique et l'utilisation des mots et l'association qu'on peut avoir avec ces mots. Alors il faut bien comprendre que tout est culturel et enfin, quand je dis tout est culturel, je ne veux pas généraliser, attention, là justement je veux mettre l'emphase sur les spécificités géographiques et culturelles et historiques qui appartiennent justement aux populations qui ont grandi à travers ces processus. Pour vraiment être précis par rapport à la question de... Merde, attends, c'est quoi la question?
C'était quoi un pays développé?
Oui, un pays développé, pardon, je me suis étalé. Un pays développé, en fait, c'est une appellation qui est utilisée par les grandes instances internationales. Et donc, on pense au FMI, à la Banque mondiale, comme a dit ma collègue tout à l'heure, Manu. Et ces institutions-là, elles ont un langage. Mais ce langage-là, c'est un langage, de par leur statut, qui devient général. Et qui, en réalité, n'est pas du tout général. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand on parle de pays développés et de pays en voie de développement, c'est qu'il y a un rapport de hiérarchie qui se crée, sous-entendant que nous, les pays développés, on est au-dessus et les pays en voie de développement, ils sont en dessous. Et ça se base sur quoi? Ça se base, encore une fois, c'est ce qu'on disait en tout début d'émission, sur la logique coloniale, sur l'origine du capitalisme et sur le rapport de puissance entre les États européens quels qu'ils soient, les grands empires ou ceux qui sont devenus aujourd'hui, et l'influence que ces pays-là ont toujours sur le reste du monde. Et on prend le cas de la Grande-Bretagne, par exemple, qui est super intéressant, parce qu'on se rend compte que ces enfoirés, ils ont colonisé la moitié du monde. Et aujourd'hui, il y a plus de pays qui fêtent l'indépendance de la Grande-Bretagne qu'il y a de jours fériés de manière générale. Et donc, c'est un peu ce rapport-là qui est intéressant de mettre en avant. Et donc, en voie de développement, c'est en fait juste une, j'ai pas envie d'appeler ça une erreur parce que ce serait faire un euphémisme, mais c'est plus une traduction du statut qu'on essaye d'avoir par rapport au reste du monde.
Mais attention, parce que ceux qui ont défini ces mots sont donc les institutions internationales qui sont situées où ?
En Europe. en Europe et aux États-Unis. Hein. Nous, deux institutions sur lesquelles on bosse, c'est le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et ces institutions-là, elles sont dirigées par qui ? Soit un Européen. Un Européen, quoi qu'il arrive, et un Américain, quoi qu'il arrive.
Et mais si on devait dire un terme concret, une limite, à quel moment je suis un pays développé ? Qu'est-ce qui définit que je suis un pays développé ? Et qu'est-ce qui définit que je suis un pays soit en voie de développement, soit sous-développé ? Est-ce qu'il y a un chiffre, une cote, quelque chose ?
Ou c'est la dette ?
C'est ça, comme ça.
En fait, je pense que c'est bien ce que Vincent a dit sur la question de la sémantique du vocabulaire. En fait, l'idéologie du développement, on pense au CADTM qu'il y a quand même une racine raciste en fait qui existe, parce qu'il y a vraiment l'idée que quand il y a eu la découverte des Amériques par Christophe Colomb, par exemple, il y a toujours cette idée de « ok, ces pays-là sont pas civilisés, on parlait à l'époque de sauvages ». En fait, ça a justifié une occupation coloniale. Et en fait, c'est ça qui aujourd'hui se perpétue, parce qu'en fait, là, tu me poses la question des chiffres, tu me poses la question de comment est-ce qu'on évalue, mais en fait, il faut savoir. Ouais, c'est ça.
C'est
en fait,
faux.
Et puis c'est aussi qu'est-ce qui crée la richesse d'un pays. En fait, il y a énormément de pays qui ont des véritables techniques super intéressantes, que ce soit artisanat, que ce soit la production alimentaire, que ce soit. En fait, il y a plein de choses qu'on peut valoriser aussi. C'est aussi une question de nous, on est dans un système capitaliste, dans un système de pays qui sont industrialisés. Mais en fait, il y a aussi énormément de savoir-faire qu'on peut valoriser qui viennent des pays des Suds. Et il s'agit de plein de notamment beaucoup de savoirs en fait, qui ont été effacés à cause de la colonisation. Donc je fais le lien avec la question des chiffres. Mais en fait, c'est un rapport qui est complètement faux. Et en fait, comment est-ce qu'on valorise un pays ? Eh ben, c'est aussi qu'on a pillé les savoirs. En fait, on a tellement justifié avec cette idée raciste qu'il y a des sauvages contre des personnes civilisées, qu'en fait, on a effacé la légitimité de ces pays à avoir eux-mêmes leur propre développement, qui sont plein de manières de vivre qu'on peut valoriser aujourd'hui en Europe et qui sont d'ailleurs super intéressantes quand on parle d'écologie, quand on parle de politique sociale, quand on parle de mise en commun aussi, la question de la privatisation qui existe dans nos pays au nord, privatisation des terres, la privatisation des ressources. En fait, il y a aussi beaucoup de pays qui, avant la colonisation, avaient des terres communautaires, plein de techniques en fait, qui ont été vues comme barbares, qui ont été vues comme pas productives, comme pas intéressantes pour l'économie, mais qui en fait sont véritablement intéressantes. Donc voilà, je réponds sans chiffres, sans...
Mais d'un côté, s'il n'y a pas de chiffres, rien comme élément déterminant, c'est une excellente réponse et ça permet d'ouvrir un petit peu les yeux, parce qu'effectivement, nous, on nous parle toujours, même au journal, même dans des livres, on va avoir des pays sous-développés, des pays développés, et on a cette culture finalement qui est ancrée en nous, et je pense que, sans méchanceté aucune, les gens, la plupart des gens vont penser que c'est légitime et que c'est une bonne chose d'amener un pays dit sous-développé, puisque péjoratif, à devenir un pays développé parce qu'on lui offrirait notre qualité de vie. Et fondamentalement, ce ne serait pas possible, puisque notre qualité de vie repose sur le fait que d'autres ne peuvent pas y accéder. Mais c'était une excellente réponse, en tout cas, merci.
Manon, tu veux rebondir ?
Tout a été dit. Je pense effectivement que l'idée qu'on a du développement, c'est comme celle de l'évolution dans le sens darwinien qui n'a aucun sens. Enfin, de dire que le développement, ce serait comme un prisme vers lequel on doit tous partout sur la Terre, avec des populations, des personnes, des techniques différentes, arriver au même stade pour pouvoir être développé, ça n'a aucun sens.
Alors, je veux finir, parce qu'il nous reste 2 minutes pour fermer l'émission d'aujourd'hui. On va essayer de communiquer plus aux gens, d'arrêter de voir Europe et États-Unis comme les centres de la carte. Mm-hmm. Parce que finalement, c'est ça. On nous a appris la carte des Mercator où l'Europe est au milieu et l'Amérique, les États-Unis, est super grande par rapport à la vraie taille. Et l'Amérique du Sud et l'Afrique sont toutes petites. Donc aujourd'hui, on parle d'autres options des cartes et on la voit ici à Esperanza, beaucoup. J'invite les gens à venir pour voir cette carte. Et vous, comment vous voulez dire aux gens de venir vous voir au village des possibles ? C'est ADTM.
Alors nous, on a un petit stand au village des possibles et en fait, on pose la question, avant de poser la question de la dette, on s'interroge aussi sur la carte, sur d'où viennent les produits de notre vie quotidienne. Et donc on a tout un tas de petits jeux et on a aussi une carte inversée pour pas avoir juste l'Europe au centre, l'Europe, le nombril du monde. Et voilà, donc je vous invite à venir pour comprendre un peu la dette, mais en abordant les choses d'une manière un peu fun et voilà, parce que c'est quand même un peu complexe.
On joue aux fléchettes, on fait des jeux de fléchettes sur notre stand si vous voulez venir et que vous êtes un peu ludique dans votre esprit, venez, vraiment c'est super drôle et puis après on vous sortira des cartes et ce sera assez intéressant pour vous.
Voilà.
Et nous pareil, on a de quoi s'informer, s'éduquer, mais aussi se défouler, s'exprimer, donc venez voir, il y a aussi la caravane Palestine pour venir sentir un peu un bout de Palestine.
Merci. Merci d'accepter cette invitation. Merci Raphaël. Merci mes invités. Merci à nos auditeurs, auditrices.